La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. En 2012, quelques mois avant l'élection de François Hollande à l'Élysée, l'ancien ministre de l'Intérieur Pierre Joxe publiait un essai de salubrité publique contre les évolutions récentes vers le tout punitif de la justice des mineurs. Devenu avocat spécialisé dans la défense des enfants, l'ancien membre du Conseil constitutionnel, ancien premier président de la Cour des comptes, grande figure morale de la gauche, faisait entendre une voix devenue ultra minoritaire depuis le tournant sécuritaire du pays tout entier, ou presque. 4 ans plus tard, la gauche ne semble toujours pas avoir entendu le réquisitoire sévère de Pierre Joxe et les discours sécuritaires n'ont fait que s'amplifier. Qu'en est-il sur le terrain, dans la réalité quotidienne de ceux qui ont en charge ce qu'on appelle en France la production judiciaire de la jeunesse? Et comment analyser ces évolutions au regard d'une perspective historique plus longue? Voilà les deux questions auxquelles répond Éduquer sous contrainte, une sociologie de la justice des mineurs signée Nicolas Salé. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Nicolas Salé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes professeur à l'Université de Montréal depuis 2013 et vous publiez aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales « Éduquer sous contrainte, une sociologie de la justice des mineurs ». Un livre tiré de recherches et d'une thèse réalisée avant votre exil canadien, votre nouveau pays de recherche sur lequel vous travaillez aussi sur ces questions. Peut-être on aura l'occasion d'ailleurs d'amorcer une perspective comparative. En tout cas, dans ce livre que vous publiez, c'est la situation française contemporaine de la justice des mineurs qui vous intéresse, mais aussi la mise en contexte historique de cette situation contemporaine pour mieux comprendre au fond des choses assez subtiles. Parce que si le tableau que je viens de dresser en introduction de cette émission est assez noir du point de vue à la fois des discours politiques et aussi des mesures législatives et réglementaires prises ces dernières années, il en va légèrement différent de la mise en œuvre de ces politiques, parce que ces politiques sont mises en œuvre par des fonctionnaires qui s'inscrivent dans une histoire assez longue et une histoire qui contraste à bien des égards avec le discours qu'on entend aujourd'hui, Nicolas Salé.
Oui, tout à fait. En fait, ce que je décris dans ce livre, c'est la mise en tension d'un secteur, c'est la mise en tension du système français de justice des mineurs. Alors en fait, le point de départ du livre consiste un petit peu à interroger les effets de ce que j'appelle en introduction du livre un cadrage punitif de la délinquance juvénile qui s'est construit, on peut dire, au tournant des années 1990 et 2000, et c'est d'analyser les effets de ce cadrage punitif sur la philosophie éducative qui animait les premières législations pour mineurs dès la première moitié du XXe siècle en France, mais d'ailleurs comme dans d'autres pays occidentaux.
Un cadrage punitif qu'on peut résumer à deux mots qui ont été repris, le fameux « sauvageon » prononcé par Jean-Pierre Chevènement et le fameux « racaille » prononcé par Nicolas Sarkozy. On a là deux, finalement, manières très très grand public de dire des choses qui s'affirment dans les politiques publiques et qui sont bien au-delà d'une politique menée par la droite dès 1986, puisque la gauche, à son tour, avec le colloque de Villepinte en particulier, va souscrire à ce tournant sécuritaire.
Oui, tout à fait. En fait, ce cadrage punitif, je pense qu'on peut dire qu'il s'articule autour de deux principales idées. La première idée, c'est cette idée selon laquelle la délinquance juvénile comme phénomène social concernerait des jeunes, toujours plus violents, toujours plus nombreux, ce que contestent pourtant les études les plus sérieuses menées sur la question. Mais on a là affaire effectivement au poids, à l'efficacité symbolique de figures extrêmement stéréotypées des jeunes dangereux, là, le sauvageon, la racaille, etc., qui circulent politiquement et médiatiquement. La deuxième idée, qui est extrêmement importante, qui est liée, c'est l'idée selon laquelle la délinquance juvénile, non plus comme phénomène social, mais comme comportement individuel, concernerait des jeunes d'autant plus responsables de leurs actes qu'ils approchent de la majorité. Et cette conception de la responsabilité individuelle, elle est tout à fait centrale. Elle a conduit précisément deux premiers ministres français de gauche, Lionel Jospin à la fin des années 90, Emmanuel Valls beaucoup plus récemment, à combattre ce qu'ils ont nommé les excuses sociologiques, qui selon eux se trouveraient au cœur des discours de différents acteurs, alors pas seulement des sociologues, mais également des magistrats et des travailleurs sociaux, qui cherchent à rendre raison des comportements délictuels, non pas évidemment pour les excuser, mais pour essayer de les comprendre et in fine pour en combattre les causes. Et en fait, vous parliez de cette histoire c'est extrêmement important, puisque l'un des socles fondateurs, historiquement, de la justice des mineurs comme justice éducative, consiste au contraire à inscrire dans le droit la nécessité d'une réflexion sur les origines socio-économiques et on pourrait dire peut-être psychosociologiques de la délinquance juvénile. Et cette particularité historique a conduit les acteurs de la justice des mineurs, en premier chef desquels les éducateurs que je décris dans le livre, à défendre une conception de la responsabilité pensée comme étant collective avant d'être individuelle, donc reposant sur la société avant de reposer sur les jeunes. Donc là, on a, si vous voulez, un conflit de représentation entre une conception de la responsabilité collective, une conception de la responsabilité individuelle. Et c'est une tension qui n'est pas résolue encore sur les terrains.
Cette conception ancienne de la gauche, c'est celle-là que défend Pierre Joxe, qui fut pourtant ministre de l'Intérieur, mais qui est un très grand juriste et qui continue de porter ses valeurs. Des valeurs qu'on trouve inscrites dans le texte fondateur de la protection judiciaire de la jeunesse, même si à l'époque ça ne s'appelle pas encore comme ça, mais ça s'appelle l'éducation surveillée. C'est une ordonnance, la fameuse ordonnance de 1945, à laquelle on revient toujours quand on parle de justice des mineurs, même si ce texte a été beaucoup réécrit. Il donne au fond une orientation politique, une orientation même qu'on pourrait dire philosophique, à la manière de traiter la justice des mineurs à côté de la justice des adultes, selon des règles qui lui sont propres et avec un personnel qui est différent et un personnel qu'il sera formé, et ça c'est très important, de manière différente du personnel de l'administration de la justice en général.
Oui, tout à fait. Alors l'ordonnance du 2 février 1945, c'est un gros chantier en termes de réflexion, parce que c'est une ordonnance qui se caractérise avant tout par sa plasticité, je dirais, et qui autorise une diversité d'usages, une diversité d'interprétations, dont on ne peut comprendre le sens que si on les replace dans leur contexte socio-historique, on va dire. Et effectivement, jusque dans les années 1990, l'interprétation dominante de l'ordonnance du 2 février 1945, c'était l'interprétation selon laquelle l'ordonnance promeut la primauté de l'éducatif sur le répressif, au nom d'une volonté, d'une conception et d'un projet politique, d'un modèle de justice qui repose sur l'éducabilité du justiciable. Et depuis les années 1990, on insiste de plus en plus sur une particularité de l'ordonnance qui se renforce d'ailleurs à mesure qu'elle est modifiée et remodifiée, parce qu'elle a été modifiée de très nombreuses fois, notamment ces dernières années. Et cette deuxième interprétation de l'ordonnance, c'est non plus la primauté de l'éducatif sur le répressif, mais la symbiose de l'éducatif et du répressif. Et ça, je pense que cette symbiose, elle conduit à des transformations de la philosophie éducative même du secteur. Donc il ne s'agit même pas de décrire nécessairement une disparition de l'éducation, mais il s'agit de décrire une transformation en profondeur des logiques éducatives et une transformation en profondeur de la philosophie éducative du secteur. C'est un peu ça l'objectif du livre.
Dans votre livre, donc Éduquer sous contrainte, vous expliquez, vous faites le récit de la manière dont s'est mis en place la formation d'un nouveau corps de fonctionnaires, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. L'expression va naître au début des années 90. Avant, c'est l'éducation surveillée, mais enfin, c'est le même ensemble collectif. Une formation, parce que il s'agit d'éduquer ces éducateurs en quelque sorte, de les former de manière spécifique, et notamment en ayant recours aux sciences sociales. Ça va se faire autour de Vaucresson, où il y a là des sociologues qui travaillent sur la délinquance à un moment particulier, des années 50, 60, 70, où l'on voit de nombreux travaux se mettre en place. Et ces éducateurs vont recevoir cette formation qu'on pourrait résumer d'une formule qui, je crois, est celle de l'un de ceux qui ont mis en œuvre cette formation, ou qui ont été un des acteurs de cette politique publique, qui consiste à dire que derrière le délit, il faut chercher ce qui se cache dans le délinquant.
Oui, tout à fait. C'est une formule de Guy Sinoir, donc le premier psychologue conseil en fait de l'éducation surveillée en 1946. Alors en fait, ça dit bien qu'on a là dans cette formation plus qu'un poids des sciences sociales, on a un poids des sciences humaines et sociales, une espèce d'articulation entre psychologie et sociologie. Voilà, au nom de l'idée que derrière le délinquant se cache un jeune en souffrance. Ce qui a d'ailleurs conduit à quelque chose d'assez important, à savoir une continuité historiquement revendiquée entre le traitement de la jeunesse dite en danger, donc qui n'a pas commis un délit mais qui est en danger dans un cadre social et familial dit de danger, donc au nom de l'assistance éducative.
Et qui relève du droit civil.
Et qui relève du droit civil, donc la continuité entre cette justice civile et la justice pénale et le délinquant, avec l'idée centrale selon laquelle le jeune délinquant est avant tout un jeune en danger. Et on retrouve cette idée là derrière cette continuité, on retrouve l'idée de la responsabilité collective dont je parlais tout à l'heure.
Alors ce qui est frappant à vous lire, Nicolas Salé, dans Éduquer sous contrainte, c'est que on voit bien l'aspect sciences sociales de cette formation, mais on voit aussi l'aspect psychologie. À côté de la sociologie, il y a la psychologie. Et ces deux approches sont mêlées, font alliance, mais il y a des traditions psychologiques qui sont relativement diverses, assez pluralistes, mais l'on voit peu à peu aussi une certaine forme de psychanalyse prendre le dessus, en quelque sorte, de ces approches psychologiques. Une psychanalyse dont l'un des auteurs les plus emblématiques sera Pierre Legendre, et qui promeut, je dirais, une certaine conception de l'autorité, de la référence, du père avec un P majuscule, comme s'amuse à l'écrire cette psychanalyse, qui semble assez peu compatible, au fond, avec les réflexions des sciences sociales et de la sociologie française de la délinquance, telles que pratiquées par Jean-Claude Chambourdon, par exemple, dans les années 70, Nicolas Salé.
Tout à fait. Alors, je pense qu'en fait, pour interroger le poids de la psychologie dans ce secteur, il faut interroger la manière dont la psychologie s'inscrit dans un contexte sociopolitique singulier. La psychanalyse, elle a pénétré une première fois la justice des mineurs entre les années 1940 et les années 1970, dans un moment historique où l'objectif est de mettre en place les fondations d'une justice éducative, on peut dire protectionnelle, fondée sur cette idée de la responsabilité collective. Et donc à ce moment-là, la psychanalyse s'est articulée aux sciences sociales, s'est articulée y compris à une forme de sociologie critique, voilà, ce que je décris.
Avec une figure comme Daniel Lagache notamment.
Voilà, avec une figure notamment comme Daniel Lagache, fondateur de la discipline de la psychologie clinique dans les années 40. Et dans les années 1980, la psychanalyse, on peut dire, a pénétré une seconde fois la justice des mineurs françaises, mais dans un contexte sociopolitique distinct, qui était un contexte de redécouverte de la responsabilité, de redécouverte du droit pénal, on pourrait dire de relégitimation du droit pénal. Et de ce point de vue-là, effectivement, la figure de Pierre Legendre a joué un rôle, et un peu plus que la figure, l'œuvre en réalité de Pierre Legendre a joué un rôle tout à fait central. Et elle permettait finalement aux éducateurs de redécouvrir une espèce d'alliance entre l'application du droit et l'acte clinique, hein, avec l'idée centrale de Pierre Legendre, hein, c'est l'idée que le droit doit représenter, dans son application et dans ses principes, ce qu'il appelle la loi du père, avec un grand P, effectivement, l'interdit fondamental, l'interdit symbolique, et donc avec l'idée que l'application du droit viendrait, et notamment l'application du droit pénal et de la sanction pénale, viendrait faire office de structuration psychique d'adolescents supposément déstructurés. Donc c'est comme ça, je dirais, que cette psychanalyse a eu de l'influence.
Et cette vision normative sur laquelle s'appuie aussi, par exemple, des mouvements comme la manifestation pour tous aujourd'hui, la manif pour tous contre l'union... le mariage homosexuel, c'est une perspective, on peut dire, très 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 différente de celle d'un Michel Foucault qui aura, lui, insufflé la période antérieure, Nicolas Salé.
Tout à fait. Et à nouveau, là, je pense qu'on peut regarder notamment ça sur la question des rapports entre l'éducation, ou la clinique, on pourrait dire, et le droit. Là où, dans les années 1970, les éducateurs, donc il faut bien préciser qu'effectivement, cette profession d'éducateur est notamment représentée par un syndicat, le syndicat national des personnels de l'éducation surveillée.
Oui, j'en profite pour dire que vous faites une sociologie de cette profession très fine, en expliquant le rôle complexe de ce syndicat.
Tout à fait, qu'un syndicat extrêmement ancré à gauche, voire à l'extrême gauche à l'époque, et qui revendique une espèce de tension entre... l'ordre judiciaire, l'ordre pénal associé à l'ordre social et les nécessités éducatives des jeunes délinquants. Et Pierre Legendre, ce qui vient là où il vient se situer en rupture avec cette tradition critique, c'est que au lieu d'une tension entre le judiciaire et l'éducatif, il promeut une sorte d'articulation quasi magique entre le judiciaire et le pénal notamment et l'éducatif.
Alors on comprend que cette théorie va permettre peut-être à certains éducateurs, si ce n'est d'accepter au moins de prendre en compte le tournant sécuritaire qui se traduit par un changement dans des lois ou dans des règlements. Néanmoins, j'imagine qu'avec les yeux qui sont les vôtres désormais, puisque vous habitez au Canada, tout ça doit sembler assez terriblement exotique, ce poids de la psychanalyse dans la protection des mineurs, dans la justice des mineurs, Nicolas Salé.
Tout à fait. Alors, d'autant plus que au Canada et au Québec en particulier, les savoirs qui dominent ce champ sont complètement différents et c'est notamment ce qu'on associe aux savoirs cognitivo-comportementaux qui, par ailleurs, envahissent un certain nombre de domaines du traitement de l'enfance en France. Je pense notamment à la question de l'autisme, qui est un peu la tête de pont, si vous voulez, de la vague cognitivo-comportementale.
Que les échecs de la psychanalyse en la matière ont été retentissants, ce qui à peu près rayé de la carte mondiale la psychanalyse, à part pour la France et l'Argentine, grosso modo.
Et Alors que dans le champ de la justice des mineurs, je pense qu'il y a une résistance très forte des professionnels à cette tradition cognitivo-comportementale dont on a pu mesurer un certain nombre d'effets à l'occasion d'un fameux rapport de l'INSERM de 2005 où on estimait qu'on pouvait détecter les délinquants des 3 ans, etc. Donc là, il y a une réaction très vive des professionnels. Et ce qui explique que les savoirs qui sous-tendent les évolutions répressives de la justice des mineurs ne soient pas ceux-là, mais soient plutôt à rechercher du côté, non pas, je dirais, de la psychanalyse, c'est important, mais d'une certaine psychanalyse.
Vous avez raison.
D'ailleurs un certain nombre d'auteurs, je pense notamment aux très beaux travaux de Michel Thor, qui est un psychanalyste qui combat cette vision normative de la psychanalyse, prônée notamment par Pierre Legendre.
On pourrait citer évidemment aussi Elisabeth Roudinesco, qui est plutôt d'accord avec Michel Thor sur ces questions. Alors, dans ce livre, Éduquer sous contrainte, vous faites toute cette histoire qui est passionnante parce que c'est aussi l'histoire d'une articulation, on vient de le voir, entre une politique publique, sa mise en œuvre et les sciences humaines et sociales, au fond. Mais dans ce livre, vous proposez également une enquête, ou plutôt 3 enquêtes, en quelque sorte, sur la réalité de cette justice des mineurs dans les années 2000 en France, à travers 3 observations que vous avez menées dans 3 contextes différents, qui sont les contextes, au fond, qui cadrent cette justice des mineurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle, et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit exactement, le milieu ouvert, et puis ces fameux centres éducatifs fermés dont il a été beaucoup question dans des campagnes électorales présidentielles, 2002, mais aussi 2007. Et puis, enfin, la situation carcérale, le monde des prisons dans lequel un certain nombre de mineurs se trouvent enfermés, soit dans des quartiers pour mineurs, soit dans des prisons qui sont dédiées spécialement aux mineurs. Donc, 3 contextes d'observation que vous avez choisis pour voir au fond comment ce tournant sécuritaire, cette nouvelle façon de concevoir la justice des mineurs a transformé ou non au quotidien les choses.
Tout à fait. En fait, ce que je décris dans le livre, finalement, un peu la conclusion générale du livre, c'est que tous ces savoirs dont on parle, en fait, ils sous-tendent la constitution de ce que je nomme un nouveau modèle d'éducation sous contrainte. C'est pour ça que le livre s'appelle « Éduquer sous contrainte ». Et ce modèle d'éducation sous contrainte, il se caractérise en particulier par l'injonction qui est faite aux éducateurs de la PJJ de réinvestir les espaces carcéraux. En fait, qui sont donc réinvestir les prisons pour mineurs. Et en fait, les prisons pour mineurs, ils avaient décidé, avec l'accord de leur direction, avec l'appui de leur syndicat, au nom de cette conception de la responsabilité collective, de les quitter en 1978. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que l'incarcération des mineurs disparaissait, mais
qu'en fait, ils avaient abandonné une partie des mineurs, au fond, au personnel classique de l'administration pénitentiaire.
Ils les suivaient de l'extérieur. Eux, ce qu'ils disaient, c'est on les suit, on les accompagne vers la sortie depuis l'extérieur, mais on peut pas mettre les pieds dans ces dispositifs parce que il y a une incompatibilité entre la contrainte carcérale interne et propre à ces établissements et les nécessités éducatives de notre pratique. Et donc ce qui s'est passé en 2002, c'est l'injonction faite aux éducateurs de réinvestir ces espaces carcéraux. Donc ça, je pense que c'est un petit peu le point de départ, on pourrait dire, de cette reconfiguration du modèle d'éducation, mais qui, par ricochet, pèse sur l'ensemble des pratiques éducatives. Alors les centres éducatifs fermés, c'est un dispositif qui me semble assez central dans cette histoire. Ils ont été créés en 2002 dans le cadre de la loi Perben 1 du 9 septembre 2002. Alors en fait, les centres éducatifs fermés, contrairement à ce que leur nom peut laisser penser, c'est pas des prisons précisément, c'est des foyers très contraints, très contraignants, qui sont fondés sur un degré plus ou moins important de fermeture selon les centres. Là, il y a une diversité locale qui est assez importante, mais qui se caractérise tous par un principe central, c'est le principe qu'on appelle de la fermeture juridique, à savoir que les jeunes sont soumis à un certain nombre d'obligations et qu'en cas de non-respect de ces obligations, ils courent le risque d'être incarcérés. Donc en fait, ce à quoi on assiste, si vous voulez, c'est la prison devient l'horizon ultime de l'action éducative et devient finalement le risque permanent encouru par les jeunes.
Donc la prison est utilisée comme une sorte de levier par les éducateurs.
Tout à fait. Et on retrouve ça à nouveau en milieu ouvert. Alors le milieu ouvert, effectivement, c'est un dispositif particulier parce que c'est le dispositif central dans la construction de l'identité professionnelle des éducateurs, avec l'idée que l'on éduque uniquement dans le milieu naturel des jeunes et non pas dans ces dispositifs d'enfermement.
C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui vivent dans leur famille ou éventuellement dans des foyers, mais qui ne sont pas dans ces centres éducatifs fermés et encore moins dans ces prisons.
Alors le milieu ouvert, là, en l'occurrence, les jeunes sont très souvent dans leur famille et donc ils sont suivis à distance, on pourrait dire, par les éducateurs. Il y a un certain nombre de rendez-vous et puis il y a un travail de réinsertion qui est fait avec les ressources de la communauté, on pourrait dire. Et en fait, le milieu ouvert est touché aussi impactée, on pourrait dire, par ce modèle d'éducation sous contrainte, sous l'effet notamment de la hausse continuelle depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, des mesures à forte contrainte pénale, notamment ce qu'on appelle les mesures probatoires de manière générale, et qui se matérialisent, comme en centre éducatif fermé, par un certain nombre d'obligations qui pèsent sur les jeunes, des obligations de soins, des obligations de formation, des obligations de suivi, l'interdiction d'aller dans certains territoires, etc., l'interdiction de rencontrer certaines personnes, etc. Bon. Et en cas de non-respect de ces obligations, à nouveau, les jeunes courent le risque de l'incarcération. Donc à nouveau, là, l'incarcération peut être utilisée comme un levier de responsabilisation, comme le disent le plus souvent les éducateurs, hein, en confrontant finalement le jeune à ses responsabilités, en confrontant le jeune aux normes pénales.
Vous parliez d'obligations de soins, d'obligations de formation, ça renvoie à deux autres ministères, la santé, l'éducation nationale. Au fond, la question se posait, ces jeunes, pourquoi seraient-ils nécessairement gérés par le ministère de la Justice et pas par le ministère de la Santé, comme ça a pu être le cas sous le régime de Vichy, ou par l'éducation nationale, comme ça pourrait parfaitement être le cas, puisqu'il s'agit d'abord et avant tout d'éduquer, c'est le titre de votre livre. Certes sous contrainte, mais d'éduquer.
Oui, ça c'est un choix historique qui a été fait en fait en 1945, de confier ces jeunes au ministère de la Justice. Puis je raconte un petit peu dans le deuxième chapitre du livre, effectivement, comment le traitement de ces jeunes était finalement placé au cœur d'un conflit de juridiction, on pourrait appeler un conflit de juridiction ministérielle, ici, entre effectivement le ministère de l'Éducation nationale, qui a failli remporter la bataille, notamment sous le Front populaire, le ministère de la Santé, qui l'a finalement remporté sous Vichy, en évinçant les instituteurs, qui étaient accusés aussi d'allégeance au Front populaire et à la gauche, etc., sous le régime de Vichy, donc qui ont été littéralement évincés. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, donc, ça a été ramené du côté du ministère de la Justice, au nom notamment de l'idée que certes, les jeunes délinquants sont des jeunes en danger comme les autres, mais ils ont quand même commis un délit. Donc c'est toujours un peu cette idée qui est restée depuis 1945, cette espèce de irréductibilité du délit, et qui a notamment permis aux magistrats de continuer à conserver un certain monopole sur le traitement de cette jeunesse.
Qui conserve un monopole, ces magistrats, mais dans un dispositif qui diffère énormément de la justice des adultes, puisque ce sont les mêmes magistrats qui à la fois sont chargés de l'instruction, mais aussi du suivi de l'application des peines. On n'a pas la division du travail traditionnel entre les magistrats instructeurs, ceux qui vont juger et ceux qui vont suivre les peines. On a, pour la justice des adultes, trois figures de magistrats différentes qui sont là réunies dans une seule personne qui a en charge, au fond, le jeune concerné.
Tout à fait. Alors, j'ai pas spécifiquement moi travaillé sur les tribunaux pour enfants, mais c'est extrêmement important. Les magistrats, les juges des enfants ont un certain nombre de prérogatives qu'on pourrait dire dérogatoires au droit commun, qui leur permettent en fait d'assurer un suivi éducatif. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui dans le contexte
et qui permettent de moduler l'application de la peine. Fait. Revenons sur un principe juridique extrêmement important, qui est normalement l'autorité de la chose jugée. Mais cette souplesse est intéressante. Elle est rare dans le monde de la justice, mais elle est intéressante parce qu'elle prend en compte, au fond, l'idée qu'il s'agit de gens en changement, en formation, qu'il s'agit aussi de continuer à éduquer.
Ah ouais, tout à fait. Ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment cette modulation qui permet aux juges d'insuffler, finalement, des prises en charge éducatives, mais qui est aujourd'hui mise à l'épreuve. Il ne faut pas le négliger. Alors, les magistrats conservent des marges de manœuvre pour faire vivre cette justice éducative, mais dans un certain nombre de juridictions au niveau local, ils peuvent être mis à l'épreuve précisément par un processus de retour du droit qui viendrait scinder ces fonctions dont vous parliez tout à l'heure. Donc là, je pense que c'est un enjeu aujourd'hui pour les magistrats de réussir à continuer à faire vivre cette manière de juger qui est la condition sine qua non de cette justice éducative.
Alors il y a ces magistrats, mais il y a surtout dans la justice des mineurs ceux qui vous intéressent au premier chef dans ce livre, les éducateurs, tous les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont ce corps dont je disais qu'ils bénéficient d'une formation particulière et qui sont au fond des gens unis par une certaine vision. Alors, ils partagent pas tous exactement la même conception. Vous montrez bien, d'ailleurs, dans les études de cas, les débats très concrets qui qui peuvent surgir entre collègues, mais néanmoins il y a une culture, on pourrait dire, professionnelle extrêmement forte, héritée de cette ordonnance de 45 et de sa mise en œuvre dans les années 50, 60, 70, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que cette culture est en train, avec le temps, avec le passage des générations et avec le tournant sécuritaire, de se déliter à certains égards?
En tout cas, ce qu'on observe très clairement, c'est des conflits croissants internes à cette profession d'éducateur. Une division croissante interne à cette profession d'éducateur, qui est notamment, mais pas seulement, une division générationnelle, hein, entre une ancienne génération d'éducateurs extrêmement attachée à cette conception de la responsabilité collective.
Qui serait de la génération de Pierre Joxe, on pourrait dire.
Oui, on pourrait dire. Et puis qui, à tel point que j'ai rencontré de nombreux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, qui refusent catégoriquement de mettre les pieds dans ces centres éducatifs fermés et dans ces prisons pour mineurs. Et une jeune génération, alors il ne faut pas non plus généraliser, hein, tous les jeunes éducateurs ne sont pas pris dans cette ambiance sécuritaire, mais qui investissent ces lieux et qui finalement tendent parfois à banaliser la contrainte d'enfermement, voire la contrainte pénale.
Vous portez maintenant votre regard sur d'autres situations géographiques et en particulier sur ce qui se passe au Canada. On assiste au même tournant sécuritaire, évidemment qui s'applique sur une histoire qui est différente, mais est-ce qu'il y a là des motifs un peu généraux qu'on retrouve dans différentes situations nationales, Nicolas Salé?
Oui, ce qu'on retrouve en fait comme une forme de convergence internationale extrêmement forte, c'est ce retour du droit. Je pense que dans tous les systèmes de justice des mineurs, fondés historiquement sur le principe d'une éducabilité du justiciable, sont traversés par un retour du droit, un retour de la règle juridique, un retour du pénal qui vient mettre à l'épreuve, hein, l'idée d'aller chercher précisément, comme on le disait tout à l'heure, ce qui derrière le délit se cache dans le délinquant. Donc ça, je pense qu'on le retrouve dans tous les systèmes.
Merci beaucoup Nicolas Salé. Je rappelle le titre de votre livre, Éduquer sous contrainte, une sociologie de la justice des mineurs. Il est publié aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales dans la collection Cas de figure. On trouve les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées, sur le site de France Culture, une page sur laquelle vous pouvez réécouter ad vitam aeternam cette émission et sur laquelle vous pouvez, je vous le conseille vivement, vous abonner au podcast afin de ne manquer aucun épisode. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet, à la technique Cédric Châtelus, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Et dans quelques instants, sur l'antenne de France Culture, vous retrouvez Étienne Klein pour la conversation scientifique.